Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
On peut vivre une vie entière sans se rendre compte qu'il y a dans cette existence une porte ouverte sur un autre monde, comme on le disait déjà le mois précédent, sur le monde d'en haut, le monde d'après, sur ces réalités que tout cœur cherche. Pour les chrétiens, les catholiques, cette porte, c'est donc rien moins que la messe. Et oui, soupir intérieurement de bonheur, les plus fervents, abonds, laisse échapper les sceptiques. Pour vous aider à entrer dans cette affirmation si audacieuse, nous avons choisi cette année de nous laisser guider par un maître S-liturgie, Monseigneur Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, un homme qui a donné sa vie pour se tenir au seuil de cette porte étroite. La messe et ses mystères, quatrième émission donc de notre grande série annuelle. On vous retrouve, Monseigneur Robert Le Gall, archevêque de Toulouse,
Emmanuel.
Ancien membre de la Congrégation pour le culte divin et ancien président donc de la Commission internationale de traduction liturgique francophone. Nous avons ce livre à la main au long de cette année, La messe au fil des rites, paru aux éditions CLD. Aujourd'hui donc on va dire plonger encore plus profondément dans ce deuxième grand temps de la messe qui est donc la liturgie eucharistique, deuxième grand poumon après la liturgie de la parole. Vous dites qu'il faut faire attention à ce que la liturgie eucharistique ne prenne pas trop de place, ou alors qu'il n'y ait pas de déséquilibre en tout cas entre la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Pourtant, quand on lit votre livre, il y a 40 pages sur la liturgie de la parole et puis il y en a près de 200 sur la liturgie eucharistique. Est-ce là un équilibre difficile à tenir ?
Vous êtes coquin. Vous êtes coquin.
Est-ce là, mais plus profondément, est-ce là un équilibre difficile à tenir ? Pourquoi est-ce que vous avez ce point d'attention ?
C'est vrai qu'on ne peut pas réduire la prière, la messe à la prière eucharistique, parce que toutes les lectures, et notamment le dimanche, quand il y a trois lectures, au point de vue du temps de la messe, il faut avouer que la liturgie de la parole prend de la place avec l'homélie, c'est-à-dire la prière universelle, et dans une messe dominicale, et c'est assez équilibré. Et même, je dirais, aujourd'hui, il faut faire attention, parce que à ne prendre que la prière eucharistique des plus courtes, comme la deuxième par exemple, on risque de donner plus de place maintenant à la liturgie de la parole qu'à la liturgie proprement eucharistique. Donc c'est un équilibre à trouver.
Est-ce que de fait on peut parler de deux poumons de la messe, que sont la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique?
C'est l'expression que vous avez est bonne. Ben, je dirais qu'il y a surtout une continuité entre les deux. L'une ne peut pas aller sans l'autre. Le pain de la parole et le pain eucharistique sont complémentaires et nous viennent du même Seigneur Jésus. Alors, c'est ça, sa parole. Et c'est lui qui est au cœur des Écritures, et c'est lui qui est au cœur de l'Eucharistie, bien évidemment. Et la liturgie eucharistique commence par votre prénom, Emmanuel, parce que le Seigneur soit avec vous. Emmanuel, c'est Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Le Seigneur, c'est la parole par laquelle, comme l'ange Gabriel s'est annoncé, Gabriel encore à elle, à la fin. Gabriel, vous avez un fils qui s'appelle Raphaël, je crois, décidément, vous collectionnez les choses.
Mais décidément, on raconte ma vie à cette antenne. Alors on va rester sur la messe, si ça ne vous dérange pas.
Donc le Seigneur soit avec vous, le Seigneur soit avec vous, c'est ce qui veut dire que c'est la parole de Gabriel à Marie, le Seigneur est avec toi.
Alors là,
dès le début, nous sommes mis en contact avec Dieu, et le ministère ordonné est fait pour mettre en contact avec Dieu. Et la première eucharistique commence par un dialogue qui montre l'unité de l'assemblée autour du prêtre. Autour du prêtre, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et on sait que c'est la reconnaissance. On a commenté ça autrefois par un père de l'Église, disant que et avec votre esprit, c'est avec la grâce que tu as de nous mettre en rapport avec Dieu. Et élevons notre cœur. Dieu vient vers nous, mais nous nous tournons vers Dieu et nous par sa grâce, nous rendons grâce à Dieu et devant notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. D'emblée, le climat y est. L'objectif est clairement atteint. Et donc ça commence par un dialogue. Ça fait partie de la prière eucharistique. Là, je me permets d'y insister beaucoup parce que ça donne le sens de la participation des fidèles à la liturgie dans cet acte central qu'est l'Eucharistie.
Alors au début de la liturgie eucharistique, donc on avait vu lors de la précédente émission, on s'est arrêté un peu sur la préparation des dons, tout ce qu'on peut en dire, et puis sur les liens qu'on peut faire avec les bénédiction juive. On avait rappelé que les Juifs passent, on va dire, leur journée à bénir. On s'est arrêté entre autres sur cette fameuse 18 bénédictions. Alors aujourd'hui, on va rentrer donc dans la structure de la prière eucharistique. On va dérouler le début de cette prière eucharistique. À propos de la préface et puis des prières eucharistiques, vous nous rappelez qu'elles datent, que la plupart d'entre elles remonteraient au IVe siècle. Quand est-ce qu'on a commencé à utiliser les mots qu'on utilise aujourd'hui, Monseigneur ?
Est-ce que vous le rappelez, comme je l'indique dans le livre, c'est en effet très, très haut dans l'Antiquité chrétienne que l'on retrouve cette formule, et ces formules qui, pour une bonne partie, comme nous l'avons dit l'autre fois, sont empruntées à des éléments des prières juives. Donc, non seulement ces formules de la préface chrétienne datent de la haute antiquité, c'est-à-dire 3e, 4e siècle, je rappelle aussi que la grande période de la mise au point des formulaires liturgiques, notamment de l'Eucharistie, date de la même période que la grande période des pères de l'Église, qui sont surtout 3e, 4e, 5e siècle. C'est les grands pères de l'Église latine, Saint Augustin.
C'est-à-dire au moment des premiers conciles qui ont fixé la foi chrétienne, la liturgie aussi a été fixée, c'est ça ?
La liturgie, la foi, les formules, la foi, la grande patristique, c'est-à-dire les grands pères de l'Église avec leurs commentaires, notamment des psaumes, notamment des évangiles, etc., des textes de l'Ancien Testament, etc. Donc il y a une coïncidence et d'une grande richesse entre à partir des Écritures et de la reconnaissance des Écritures, du canon des Écritures, la parole des pères de l'Église, les formulaires, les liturgies, tout ceci va ensemble, et les conciles, comme vous le rappelez, les quatre premiers conciles de Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine, les quatre conciles qu'il faut aimer à l'instar des quatre évangiles, des quatre prières eucharistiques.
Alors la prière de la préface, on le rappelle, le Seigneur soit avec vous, vous l'avez dit, et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, puis rendons grâce au Seigneur notre Dieu. J'aimerais qu'on s'arrête sur un mot, vous arrêtez, haut les cœurs, c'est devenu une expression, parfois on dit haut les cœurs.
Sursum corda.
Alors qu'est-ce que ça dit de la disposition dans laquelle on est invité à rentrer à ce moment de la liturgie ?
Nous commençons de le dire il y a un instant. Ceci manifeste assez clairement la structure même de notre être et de la liturgie, qui est de la prière de notre être le plus profond. C'est-à-dire que
il nous est demandé un peu de nous rehausser à ce moment-là la liturgie.
Nous avons conscience que nous recevons de Dieu ce que nous sommes et ce vers quoi nous allons. Et donc saint Paul le dit dans une de ses lettres aux Colossiens notamment, et il est toujours tendez vers les choses d'en haut, là où le Seigneur nous attend, vers la Jérusalem céleste que nous évoquions déjà à plusieurs reprises, et au les cœurs, c'est-à-dire que tournons notre cœur, c'est-à-dire le fond de notre être, vers le Seigneur et qui est venu vers nous, qui vient vers nous, et qui descend chez nous, c'est ce qu'on appelle la catabase, ou l'incarnation, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, il a assumé la kénose, comme dit aux Philippiens l'apôtre Paul, et il s'est vidé pour nous ce qu'il a manifesté lors du lavement des pieds, il s'est vidé pour nous, il est allé au plus bas pour nous faire remonter vers Dieu. Donc la grâce nous vient, et nous atteint, nous touche, et grâce à ce toucher de la grâce, notre être peut repartir, qui s'éloignait de Dieu, peut repartir vers lui, et donc tendre vers lui à la catabase, c'est-à-dire à la descente de Dieu vers nous, l'économie de salut, comme diraient les pères grecs, que correspond, donc, ou est rendue possible, cette remontée vers Dieu, qui est la nôtre, haut les cœurs, dont nous le tournons vers le Seigneur. Et c'est, autrement dit, la grâce que nous recevons, appelle de notre côté la reddition de la grâce, nous rendons grâce, et c'est ça l'Eucharistie.
Alors vous dites, nous rendons grâce à Dieu parce que sans lui, notre cœur resterait sur terre. Si on rentre dans le champ de la préface, alors vous allez nous expliquer en deux mots ce que c'est que le champ de la préface, il y a un mot qui revient, enfin vous notez à ce moment-là dans votre ouvrage, qu'il y a un mot qui revient régulièrement, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Ce champ de la préface, et pourquoi ce vraiment qui revient constamment dans la liturgie ?
Et c'est repris. On a parlé l'autre fois du chemin Israël, écoute Israël, qui est la prière juive fondamentale, et dans la troisième bénédiction qui est lue à certains moments de le matin par les Juifs. Et il est dit ceci, « Vraie et certaine, stable et permanente, droite, fidèle, aimée, aimable, désirable, suave, vénérée, et chère et accueillie, bonne et belle. Oui, telle est cette parole proclamée sur nous à jamais toujours. Vraiment, le Dieu de l'univers subsiste de génération en génération. Vraiment, tu es le Seigneur Dieu de nos pères. Vraiment, tu es le Seigneur de ton peuple. Vraiment, tu es le premier-né. Vraiment, etc. » Et ce que reprend la préface après le Sanctus, le Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit, béni dans la bénition, celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, ça veut dire sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Et le prêtre reprend au début de la préface, il dit vraiment, il est juste et bon de.
Pourquoi autant de vraiment alors?
Vraiment.
Bah, parce il s'agit que de nous en convaincre.
C'est pour montrer que c'est si le Seigneur a dit dans le chapitre 4 de Saint Jean, avec la Samaritaine, le Dieu attend que nous soyons dans l'adoration en esprit et en vérité. Ça montre que c'est du vrai, c'est du profond, c'est quelque chose qui est vital et vivifiant pour nous, vraiment. Donc c'est le Seigneur a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie.
Alors juste, Monseigneur, le chant de la préface, c'est quoi?
C'est un chant de louange qui poursuit le dialogue initial de la préface et qui chante le Seigneur. Et il y a autrefois, c'est dans la liturgie avant le Concile Vatican II, c'était réduit au début et à la fin de la préface, mais on a perdu souvent le corps de la préface qui mentionne de manière souvent extrêmement sobre dans la liturgie latine et très résumée, mais très belle. Il y a actuellement à peu près 80 préfaces. Et qui jalonne le temps liturgique. Et au cœur de chacune des prières eucharistiques, il y en a 8 pour le dimanche, par exemple, il y en a 4 ou 5 pour les féries du temps ordinaire. Mais les grandes préfaces sont celles de Noël, de Pâques, de l'Ascension, et de la Pentecôte, etc. Et les préfaces des saints, des pasteurs, des martyrs, etc. Donc qui spécifient un petit peu l'objet de la louange selon la célébration qui est en cours.
Que l'on va adresser. Alors vous dites aussi que cette partie donc de la liturgie eucharistique, à ce moment-là, j'ai envie de dire, le focus est mis sur le Père. C'est un peu trivial de l'exprimer comme ça.
Toute préface est adressée au Père, en effet. Comme Jésus, l'être de Jésus dans lequel nous entrons comme rachetés par son sang, notre identité c'est celle de fils et de fille de Dieu, unis par l'union de l'époux et d'épouse comme le Christ en parle souvent, et qui constituent le fils total, le fils total se reçoit du Père et se retourne vers le Père, se reçoit du Père par l'amour de l'Esprit Saint et reflue vers le Père par le même amour de l'Esprit Saint en disant Abba. C'est notre identité profonde.
Vous parlez donc du coup du Sanctus qui suit, rappelons justement que c'est la prière sacerdotale du Christ qui est ici.
Et en même temps, le triple Sanctus, c'est la vision inaugurale d'Isaïe au chapitre 6e de prophète Isaïe. Saint, 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 la vision en effet des chérubins et des séraphins qui sont autour du trône de Dieu.
S'ensuit la première épiclèse et on va s'arrêter là-dessus avant de faire une première pause musicale. Donc l'épiclèse, c'est le moment, si j'ai bien compris, où le ministre ordonné invoque l'Esprit Saint sur les espèces qui sont mises sur l'autel.
En imposant les mains sur les oblats.
J'ai souvenir comme ça d'une. Enfin, on a, comment dire, si on se penche et on cherche un petit peu, il y a des miracles. Miracles eucharistiques qui ont parfois lieu à ce moment aussi de la célébration. Que se passe-t-il exactement à ce moment-là, Monseigneur Le Gall?
Épiclèse, c'est un mot grec, on n'est pas dans l'hébreu. Épi, ça veut dire sûr, comme un épithète, c'est ce qu'on met après un substantif pour le préciser. Et donc épiphanie, c'est ce qui se manifeste au-dessus, donc épi, c'est au-dessus. Épiscope, l'évêque, c'est celui qui observe à partir du dessus, épi, donc épi, clèse, et caléo, c'est appelé, donc c'est appelé dessus. Donc c'est un appel à l'Esprit Saint sur les oblats pour qu'elles deviennent le corps et le sang du Christ.
Sur les dons.
Sur les dons, sur le pain et le vin dans l'espèce, c'est un appel vibrant à l'Esprit Saint. Je vous disais tout à l'heure que, en effet, notre identité était celle de fils qui se reçoit du Père dans l'amour que le Père nous donne quand il engendre son fils, et nous refluons vers le Père de ce même mouvement d'amour qui est une personne divine, qui est l'Esprit Saint, quand en disant Abba. Donc on fait appel à l'Esprit Saint.
Et c'est à ce moment-là donc, que les offrandes sont transformées
et,
Non.
Non.
On invoque.
Ah, là, c'est là qu'il y a des différentes interprétations, mais qui reviennent au même, dans le fond, entre l'Église latine et l'Église d'Orient. Pour l'Orient, la prière eucharistique tout entière consacre les dons. Et pour on a repris dans la liturgie issue de Vatican II, dans la restauration, le renouvellement de la liturgie, on a pris en lien avec les anciennes prières eucharistiques très très anciennes, mais qui est comprise le canon romain, dont il y a un appel de l'Esprit Saint, qui est le premier avant la consécration pour nous latins, et il y a une seconde épiclèse sur l'assemblée après la consécration. Et pour nous latins, ce qui consacre, c'est le récit de l'institution, c'est la reprise des paroles de Jésus, où il dit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est la coupe de mon sang, etc. » Pour nous latins, la consécration se situe là. Et donc, c'est pour ça que le prêtre génuflecte après chacune des consécrations. Et pour les orientaux, c'est tout l'ensemble, ce qui n'est pas faux. Donc, il faut garder les deux perspectives et dans la complémentarité de nos spécificités.
On fait une première pause et puis on vous retrouve, Monseigneur, pour continuer à avancer dans la liturgie eucharistique. Rentrer dans les détails et les mystères de la messe. La messe au fil de ses rites, c'est pour rappel le titre de l'ouvrage que l'on parcourt cette année paru aux éditions CLD.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
La messe et ses mystères, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce premier lundi du mois. Donc notre grande série annuelle avec Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse, et entre autres donc auteur d'un ouvrage sur la liturgie de la messe, et je le rappelle entre autres aussi ancien membre de la Congrégation pour le culte divin à Rome. Alors on continue à plonger dans la liturgie eucharistique et on arrive au moment important par excellence, qui est donc le récit de l'institution et les paroles qui vont consacrer le pain et le vin, et qui vont faire par grâce qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ. Vous avez cette formule. En ce qui concerne les formules de consécration proprement dites, il faut savoir qu'elles nous sont parvenues par 4 voies complémentaires, celle des 3 évangiles synoptiques et celle de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Voilà, la messe est irriguée par l'Écriture. C'est vraiment là, Monseigneur, le sommet de la liturgie et de la messe.
Nous sommes en effet au cœur de la messe. C'est ce moment où, je répète, pour les latins particulièrement, et ça a été précisé par un texte officiel de l'Église, je crois que c'est le pape Pie XII qui l'avait fait, c'est là que, en effet, pour les latins, le moment où le corps du Christ donc est présent à partir des espèces du pain et son sang à partir de l'espèce du vin sont présents à tel point que après chacune des consécrations, le prêtre fait génuflexion, un signe d'adoration véritablement des espèces qui ne sont plus le pain et le vin mais qui sont le corps et le sang du Christ.
Glorieux, il faut rappeler.
Le Christ glorieux, tel qu'il est actuellement. Mais dans un état de victime, c'est important que de signaler au passage que la raison pour laquelle il y a le corps et le sang manifeste, c'est un état d'une victime. Et quand un être humain, on voit le sang d'un côté et le corps de l'autre, c'est pas bon signe. Quand un accident, le sang est versé, etc., c'est le signe de la mort. Donc le corps et le sang ne soient pas ensemble. Parce que le sang irrigue le corps.
Donc c'est ce que ça vient signifier. Ça vient signifier quoi? Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée?
Ça signifie que le Christ, la mort du Christ, on annonce la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne, et en ce sens qu'il y a le corps d'un côté et le sang de l'autre. Et que si un prêtre consacrait le corps du Christ et mourait après, il n'y a pas de sacrifice eucharistique. Parce que le sang n'a pas été consacré. Alors il faut qu'un prêtre vienne continuer la messe. À ce moment-là, il y a eu le sacrifice eucharistique. C'est-à-dire il y a eu l'offrande de la kénose de Jésus qui est allée jusqu'au bout, qui a versé son sang pour chacun d'entre nous.
Mais alors juste, Monseigneur, si on doit s'arrêter sur cette partie de la liturgie, puisqu'il y a probablement des gens qui parfois ont du mal à poser un acte de foi réel à ce moment-là. Quand on dit donc le corps et le sang, est-ce que c'est quelque part le même corps et le même sang que le Christ ressuscité qui est apparu aux apôtres, c'est-à-dire c'est à la fois son corps et en même temps dans une réalité qui est tout autre?
Lorsque le Seigneur a institué l'Eucharistie, ceci est mon corps, c'est le corps dans l'état où il était, c'est-à-dire avant sa passion et avant sa résurrection, comme il était avec nous. Mais c'est le Verbe fait chair, Dieu fait homme, donc il est dans sa totalité de son être. Et dans l'état où il était, quand il a consacré son corps et son sang. Mais désormais, quand il a dit « faites ceci en mémoire de moi », et quand nous consacrons le corps et le sang du Christ, c'est le corps et le sang de Jésus tel qu'il est dans la gloire de son Père, assis à la droite du Père, maintenant. Mais dans un état symbolique de victime, parce que même si dans le corps du Christ, il y a toute la personne du Christ, le corps, le sang, la l'âme et la divinité, comme on dit, et c'est dans le sang, c'est la même chose aussi, il y a de la totalité, mais symboliquement, ils sont séparés. Donc, c'est symbole de la mort. Et c'est extrêmement important ça. Et quand nous, à la fin, nous allons y revenir, nous, dans la doxologie, nous offrons le corps et le sang, c'est le prêtre est dans les deux mains, cet assistant, et pour manifester un petit peu ce sacrifice est allé jusqu'au bout, comme il le dit quand le dit saint Jean au début du chapitre 13e, qui entre dans l'heure de Jésus, qui est actualisé dans chaque messe. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et il y a pas de récit d'institution dans saint Jean d'ailleurs. Et ce qui signifie cela, c'est le lavement des pieds où le Seigneur se vide, comme il s'est vidé de son sang sur la croix, pour nous donner l'esprit.
Alors vous dites aussi, Monseigneur, donc, que les 4 prières eucharistiques, à vous lire, en fait, chacune apporte des nuances ou insiste sur l'un ou l'autre aspect. Sans rentrer dans le détail, qu'est-ce que vous pourriez dire sur la richesse de ces quatre prières eucharistiques?
Pendant des siècles, dans l'Église latine, on a eu que la prière du canon romain, comme on l'appelle, qui a une forme qui contraste avec la plupart des prières eucharistiques que nous retrouvons dans les 2, 3 et 4, et même dans les prières eucharistiques qui suivent éventuellement. Et c'est une composition qui est venue des siècles et qui est plus complexe. et qui est moins simple à voir. Mais en tout cas, c'est l'invocation au Père. Elle est marquée par l'intercession des saints, d'une première série de saints, après l'intercession pour les vivants. Ensuite, il y a eu une prière pour les morts après la consécration et une autre série de saints avant la conclusion de la prière eucharistique.
Alors, si ça vous embête pas, on y reviendra parce qu'on s'arrêtera donc sur ces quatre prières eucharistiques. J'aimerais qu'on parle un peu du mémorial. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est une parole qu'on entend donc à la messe. Et vous posez cette question, quel est ce sens de ce dernier ordre de réitération? Quelle est la fonction du mémorial? Qu'est-ce que ça veut dire mémorial en fait?
C'est un mot qui, dans l'écriture, a une grande importance. Et après l'alliance qui a été faite au Sinaï, de toute l'organisation de la liturgie, ensuite pendant l'exode dans le désert jusqu'à l'installation dans la terre promise et puis la construction du temple, tout ceci vise à rappeler donc aux fidèles. De manière diversifiée suivant les jours et l'importance des jours et le calendrier liturgique, rappeler l'alliance et l'actualiser. Et le mémorial, c'est...
C'est-à-dire qu'on fait mémoire et en même temps c'est totalement présent, c'est ça ?
On fait mémoire pour qu'on en prenne la bonne mesure aujourd'hui. Le odier, le aujourd'hui, qui est constamment dans la liturgie. Et ce faisant, on prépare l'avenir. Donc c'est ce télescopage dont nous parlions déjà une fois, entre les dimensions de passé, de présent et d'avenir, qui sont comme unifiées dans l'acte liturgique.
Alors attendez, si je le fais, on va dire, pour les adolescents, ou pour le grand public, c'est comme si le passé, le présent et l'avenir, à ce moment-là,
télescopé,
dans la liturgie,
ça fait qu'un.
Les chrétiens ou les catholiques croient qu'à ce moment-là, il y a tout est un.
Et... La preuve, c'est que le Christ, faites ceci en mémoire de moi, de moi et de la totalité du mystère que je vous propose, et d'entrer pleinement dans mon mystère. Et le Christ est là, tel qu'il est dans la gloire, mais on rappelle son sacrifice qui n'arrivait qu'une fois à Pâques, c'est le service de la croix, qui est actualisé aujourd'hui, et en vue de son aboutissement dans la Jérusalem céleste, pour le rejoindre là où il est assis à la droite du Père. Donc ces trois éléments sont symboliquement présents et de moment de grâce, on est vraiment au cœur des mystères déjà. Déjà et pas encore, le parfait déploiement de l'économie du salut n'est pas encore achevé, mais nous avançons vers là.
J'aimerais que vous fassiez un parallèle aussi avec la liturgie de la parole. J'avais noté donc qu'en hébreu, la parole, c'est à la fois l'expression vocale et à la fois l'événement. C'est quelque chose que vous aviez dit.
C'est-à-dire que
la parole, comme la liturgie eucharistique, c'est à la fois on dit et en même temps que c'est dit,
c'est fait.
C'est
ce que nous évoquions déjà dans une de nos rencontres à la radio ici, c'est que Dieu dit et ce disant, il fait. Et comme Dieu, il n'y a pas d'avant et d'après, c'est dans l'éternité, donc nous rejoignons son mystère d'éternité dans les actes que nous avons posés en son nom, dans la liturgie. Et la parole de Dieu, quand on la reçoit, quand on y adhère et quand on y répond, souvent d'ailleurs avec les paroles que Dieu nous a données dans les psaumes, eh bien nous entrons de manière actuelle dans son mystère. Ça, c'est vrai pour la parole de fait déjà, mais c'est encore de manière plus profonde et plus ontologique, j'allais dire, à l'occasion du sacrifice eucharistique, où avec le corps et le sang du Christ, nous recevons son corps, son âme et sa divinité, comme on dit traditionnellement.
Alors s'ensuit donc l'anamnèse dans la messe.
L'anamnèse, c'est après la consécration.
Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mère.
C'est vers le haut, toujours comme analogue, comme l'anaphore, elle s'est portée vers Dieu, c'est un autre nom de la prière eucharistique. Et donc, c'est le souvenir qui nous remonte.
Alors qu'est-ce
faire remonter l'anamnèse, c'est le souvenir qui remonte vers Dieu, nous nous souvenons de tout ce que Dieu a fait pour nous et de tout ce qu'il fait actuellement pour nous. Nous préparons l'avenir et nous célébrons ta mort, Seigneur Jésus, nous annonçons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà les trois éléments explicites dans le chant qui, à l'invitation du prêtre, il est grand le mystère de la foi. Et une des réponses, et c'est là, nous annonçons ta mort passée, nous célébrons ta résurrection. Et aujourd'hui, nous attendons ta venue dans la gloire, ce qui est le terme de l'histoire du salut.
Voilà, je redis avec d'autres mots, tellement grand est le mystère à ce moment-là qu'on contemple dans la messe. Un mémorial n'est souvent pour nous qu'un monument aux morts, une référence à un passé que nous sommes bien incapables de ressusciter et que nous nous contentons de rappeler. Tout acte liturgique, ajoutez-vous, actualise dans le présent l'alliance précédente et anticipe l'alliance plus parfaite qui doit suivre. Avant qu'on fasse une deuxième pause, Monseigneur, vous parlez à ce moment-là donc de la seconde épiclèse. Alors pardon, j'espère qu'on ne perd pas les gens au cours de
l'institution.
Hein, on avance pas à pas dans la messe. La première épiclèse, pour rappel, c'était donc l'invocation de l'esprit sur les espèces.
Et lorsque le prêtre impose les mains, et dans la prière eucharistique de deuxième, dans la formule latine liée à l'ancien, c'est la rosée de l'Esprit Saint, imprègne de ses dons la rosée de l'Esprit Saint. Et pas que la manne, c'était dans ces magnifiques formules. Donc, pas que l'action de l'Esprit Saint consacre, et pour nous,
pourquoi une deuxième épiclèse alors?
Une deuxième épiclèse, la première est pour le corps eucharistique de Jésus, et la seconde sur le corps mystique, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'assemblée présente et de l'ensemble du corps du Christ. Nous ne faisons qu'un avec lui, nous l'évoquions déjà tout à l'heure et dans un autre entretien. Et donc, c'est l'ensemble du corps du Christ et d'Église qui constitue le Fils total et qui se reçoit du Père et se restitue au Père.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'assemblée qui est consacrée.
On prie pour que l'assemblée, et qu'au-delà de l'assemblée présente, tous les hommes donc puissent avoir part au salut. Et on prie à ce moment-là, on appelle l'Esprit Saint, épiclèse, c'est on appelle sur l'assemblée et sur le monde entier qui est appelé à entrer dans le salut en Jésus-Christ.
Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on croit dans la foi dans ces cas-là, dans l'invisible? Parce que la première épiclèse, le fruit a été que le simple pain et vin ont été transformés dans le corps du Christ. La seconde épiclèse, qu'est-ce qui se passe dans l'Église et dans le monde,
comme on prie dans les textes eux-mêmes, c'est que l'on grandisse dans la charité. Pour qu'il grandisse dans la charité.
Mais c'est pareil, on dit et Dieu fait, du coup l'assemblée devient vraiment plus charitable.
C'est ce que nous espérons. Évidemment, nous reproduisons la messe tous les jours parce que si on allait jusqu'à la plénitude de la conscience de ce que c'est que la messe, on en mourrait d'amour. Mais on a réitéré pour que chaque jour nous revenions dans ce mystère. Et le titre de ces émissions, c'est aussi la messe en entrée dans ces mystères à partir de ces rites. Donc, et c'est pour à chaque fois nous entrons davantage dans le mystère et nous nous laissons imprégner par la grâce de l'Esprit Saint. Et comme disent les spirituels, la grâce essentielle qu'il faut demander toujours, c'est la présence et l'action en nous de l'Esprit Saint.
Alors, Monseigneur, j'avais fait une fausse promesse parce qu'il faut, avant qu'on fasse une deuxième pause musicale, et après on parlera dans la dernière partie des quatre grandes prières eucharistiques et puis de la doxologie, par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Il faut parler de l'intercession comme prolongement de ce deuxième épiclèse.
L'intercession.
À ce moment-là, donc, l'Esprit a été invoqué sur l'Assemblée, je disais en rigolant, sur le département, la région, sur le monde.
Oui, mais sur le monde entier. Voilà. Donc, en effet,
s'ensuit l'intercession.
On prie pour les vivants et pour les morts dans cette partie d'intercession et qui suit l'épiclèse, c'est-à-dire l'appel à l'Esprit Saint pour qu'il vienne sanctifier le corps de l'Église, l'Assemblée présente et bien au-delà dans le corps de Christ, même dans le passé, par certains côtés, parce que Dieu n'est pas lié justement à la gère actuelle. On prie pour que se manifeste et se déploie la totalité et la perfection du mystère du Christ, mais dans le temps.
La messe au fil de ses rites, c'est le livre que l'on parcourt, paru aux éditions CLD. On fait une deuxième pause musicale et on vous retrouve, Monseigneur, pour finir cette quatrième émission et se plonger donc dans les quatre grandes prières eucharistiques.
Oh.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
La messe et ses mystères, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin, ce premier lundi du mois de janvier. Nous sommes toujours avec Mgr Robert Legall, archevêque de Toulouse.
Je viens de commencer l'année avec la messe, c'est magnifique. Rentrer dans la plénitude de la messe, c'est bien pour toute l'année qui commence.
Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi au long de cette année, nous parcourons donc la messe pour essayer d'en dévoiler ses mystères, comme l'indique le titre de cette émission. Et après, donc, nous êtes penchés au début de l'année sur la liturgie de la parole. Nous continuons donc de la liturgie eucharistique. Alors il y a quatre grandes prières eucharistiques, le canon romain, et puis après la prière eucharistique numéro 2, 3 et 4. Alors on va pas rentrer dans le détail de chacune,
non,
mais j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur les quatre. Avant cela, vous citez Jean Guiton, donc célèbre écrivain, vous dites la chose suivante à propos donc de ces quatre liturgies. La liturgie latine, jadis si fixe, admet depuis le Concile plusieurs manières de dire le canon de la messe, et il me paraît juste que la prière ainsi se diversifie comme le font les couleurs qui décomposent une égale lumière. Pourquoi avoir cité ce commentaire de Jean Guiton ?
Jean Guiton est un homme qui a beaucoup de grâce d'écriture et de réflexion profonde. Et il a été d'ailleurs lié par la volonté de Paul VI, notamment au Concile, et puis donc à ce qui est arrivé après le Concile. Donc c'est heureux qu'il ait exprimé cela comme cela. Et il est de même que les quatre évangiles. Elles ne disent pas la même chose exactement, mais donc, et ce qui est une bonne chose, ce ne sont pas d'un accord parfait dans quelques détails, mais ça montre en effet un témoignage d'une lumière diffractée, si on peut dire, sur le même mystère de Christ Jésus, notre Sauveur. Et donc, c'est heureux qu'il y ait quatre évangiles, et nous savons que Luc, nous avons lu la dernière année liturgique, et après Luc, nous reprenons un autre évangile de cette nouvelle année liturgique. À chaque fois, donc, ça permet d'entrer davantage dans le message propre de chacun, de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Même si Jean, il n'y a pas d'année Jean dans les ABC, c'est les trois premiers évangiles synoptiques. Alors de même, il est bon qu'il y ait quatre principales prières eucharistiques, parce qu'il n'était pas les seuls. Il y a des prières pour la réconciliation, il y a des prières pour les circonstances particulières, qui sont assez belles aussi, que j'utilise moi-même de temps en temps. Mais les quatre principales, je dirais quatre évangiles, quatre grands conciles, que nous évoquions une autre fois, Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine, quatre prières eucharistiques, quatre grandes constitutions du Concile Vatican II. Ah, c'est bien ça, comme les points cardinaux. Et chaque prière a donc sa particularité.
Alors, la première... Si on s'arrête, si ça ne vous embête pas, le canon romain, donc...
Nous avons déjà évoqué l'autre jour.
Jusqu'en 1968, donc c'était la seule prière eucharistique.
La seule, en effet.
Vous dites la chose suivante, on perçoit tout au long de cette prière vénérable une authentique onction ou dévotion, au meilleur sens de ce terme, qui exprime la volonté de se vouer, de se donner à Dieu. Et vous ajoutez, c'est une grande prière, une douceur, une tendresse face à Dieu. Qu'est-ce qui caractériserait cette prière?
Il y a une très belle langue burinée par les siècles, et puis il y a toute une dévotion qui s'y est vraiment mise en profondeur par là. Et il y a un des mots qui revient par exemple à plusieurs reprises, c'est le mot « dans ta bienveillance, accepte-la ». Dans ta bienveillance, accepte-la. La bienveillance, c'est la bonté de Dieu vis-à-vis de nous et sa miséricorde. Et c'est très délicatement dit. Et le fait que cette prière eucharistique donc soit équilibrée autour du récit d'institution sur la prière pour les vivants d'une part, et la mention d'une première série de saints, dont les apôtres et les premiers papes, etc. Et ensuite, après l'institution de la consécration, et vers la fin de cette prière eucharistique, il y a l'intercession pour les morts, D'abord, et puis ensuite une autre liste de saints qui sont Étienne, Jean-Baptiste, et quelques martyrs, hommes et femmes, jusqu'à la fin. Et il y a un équilibre qui est un très bel équilibre, mais sous fond de bienveillance et de dévotion, de se dévouer comme le Christ s'est voué, est allé jusqu'à la mort, jusqu'au bout de l'amour. Et nous essayons, par ces prières marquées d'une onction spirituelle, et nous essayons aussi de nous-mêmes de nous donner à Dieu. C'est-à-dire, le Christ s'est donné à nous, et dans chaque Eucharistie, indépendamment du prière eucharistique 1, mais qui le mentionne plus doucement et plus profondément que les autres, peut-être, il y a donc cette volonté de nous donner dans l'acte même du sacrifice eucharistique.
Alors, la deuxième prière eucharistique, à vous lire, j'ai découvert une chose qui peut paraître un peu étrange. Vous dites donc que c'est le prêtre romain Hippolyte qui en est l'auteur.
Oui.
Prêtre qui a été un antipape. On se dit, c'est quand même incroyable que... Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est qu'un antipape, et peut-être qui était ce prêtre romain Hippolyte. Mais donc, la deuxième grande prière eucharistique de l'Église est celle d'un homme qui on va dire, a cherché des noises par le passé au pape. Ça paraît un peu fou, comme ça.
Vous savez, c'est une des premières périodes où il y a eu quelquefois plusieurs papes où les choses n'étaient pas claires. Et vous savez qu'il y a eu dans le grand schisme, des schismes où il y avait plusieurs papes, il y en a eu trois ou quatre à certains moments. Et donc c'est quand même extrêmement douloureux.
On était au IIIe siècle. Hein,
mais là, au IIIe siècle, déjà, c'est arrivé. Et donc la réconciliation s'est faite pour les deux papes antagonistes dans les mines de Sardaigne, donc quand ils étaient déportés aux travaux forcés. Donc c'est quand même extraordinaire, et donc sacrement la réconciliation est toujours possible, quoi qu'il arrive, et ce texte qui est la prière eucharistique à l'origine est une prière eucharistique pour l'occasion d'un sacre d'un évêque. Et le texte commence en effet, quand il a été sacré évêque de tous, lors de baiser de paix et l'acclame, il est devenu digne. Axios, comme disent encore dans la tradition grecque, dans la liturgie grecque. Et que les diacres lui présentent l'oblation, en son nom, le Seigneur soit avec tout, élevons les cœurs. Vous voyez, dès là, élevons le dialogue initial de la prière eucharistique se trouve dans cette prière eucharistique, et que reprend, pas littéralement, mais en bonne partie, la prière eucharistique 2.
Alors, la prière
très antique.
La prière eucharistique 3 et 4 sont plus récentes. Je pourrais lire certains passages qui les caractérisent, mais comme le temps est compté, je vais vous laisser les caractériser l'une et l'autre avant qu'on finisse par la doxologie, cette grande prière.
La prière eucharistique 3, c'est peut-être la plus équilibrée de toutes ces prières, et qui donc a la structure de la prière 2. Et la quatrième aura la même structure, mais dans un équilibre, celle que je prends le plus volontiers dans les célébrations dominicales, habituellement, surtout je chante la prière, la récitation avec des prêtres qui concèdent quand il y en a, et elle est en effet bien posée, elle est moins, la partie qu'il y a entre la fin du Sanctus et puis le récit d'institution est plus développée, alors que c'est très court dans la prière 2, et c'est une belle prière et qui est une composition relativement récente, mais qui emprunte à beaucoup d'anciennes anaphores. Anaphores, c'est-à-dire c'est porté vers le haut, donc c'est de l'offrande un petit peu que nous faisons à partir de l'offrande que le Christ a fait de lui-même, comme nous disons toujours. Et ça, c'est la prière eucharistique 3, donc qui est très, très équilibrée avec les deux épiclèses, la récit d'institution, les intercessions, comme nous l'avons dit déjà. Et la prière eucharistique, elle, est un peu plus longue.
4,
et
donc.
La quatrième est un peu plus longue, et notamment dans la partie qui va de la fin du Sanctus au récit d'institution, qui est très courte dans la 2, bien en place dans la 3, mais elle est vraiment développée dans la prière eucharistique 4, et qui brosse un petit peu toute l'histoire du salut, les alliances. Et c'est une belle... j'aime bien apprendre, la préface commence par la création, et ensuite la création est reprise après le Sanctus, et ensuite les alliances jusqu'à l'harmonie de l'alliance faite en Jésus-Christ, c'est tranquillement exposé, Et c'est vraiment très 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 beau. Et après la consécration, après le récit d'institution, on revient à des choses, l'offrande de l'Église qui revient là. Les formules sont très très belles. Et je vous recommande, chers auditeurs, de les regarder de plus près, de prendre le temps parfois, avant la messe ou après la messe, de reprendre telle ou telle de ces formules tranquillement et pour apercevoir le caractère propre.
Et toute la poésie aussi à vous entendre. Hein. Si on finissons donc par cette quatrième émission par la doxologie. La doxologie, pour rappel, ce sont ces paroles: par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Vous avez cette phrase suivante: la doxologie finale du canon est le moment le plus solenel de toute la messe pour les prêtres comme pour toute l'assemblée.
Évidemment, en soi, la consécration, la présence du corps et du sang du Christ, c'est vraiment le centre. Mais le sang de Christ n'est pas là pour être, c'est pas le moment de l'adoration du Saint-Sacrement. C'est un acte vivant, la prière eucharistique, et qui nous emporte avec elle. Que nous parlions des processions dans la messe, où nous sommes en route, et le Christ s'est donné à nous par la volonté du Père. Et nous nous donnons avec le Christ au Père, et le prêtre ayant dans la main, d'un côté dans une main
le pain et le vin,
le corps du Christ, et l'autre le sang du Christ, et donc l'offre dans un geste qui était le geste d'investiture des prêtres de l'Ancien Testament. Le nouf, le verbe nouf signifie balancer. Alors, évidemment, je ne balance pas le cœur et le sang du Christ au Père, je ne balance pas, mais c'est un geste de mouvement, d'offrande, un très beau geste que nous reproduisons là. Et c'est l'aboutissement de la prière eucharistique. Et donc, par lui, avec lui et en lui, c'est le Christ, à toi Dieu, c'est trinitaire, à toi Dieu le Père, c'est toujours adressé au Père, à toi le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. C'est lui qui fait l'unité du Père et du Fils. Il est l'unité du Père et du Fils. Il fait l'unité de l'Assemblée. Il fait l'unité de l'Église progressivement. Et à ce moment-là, toute l'Assemblée répond à un amen vibrant. Et quelquefois qu'on répercute dans la musique de manière plus solennelle à certaines occasions. Mais on est là. Et aussitôt après, donc, étant uni au Christ dans son sacrifice, c'est-à-dire dans le don de lui-même qu'il fait au Père, et avec nous, avec lui, on peut, qu'est-ce qu'on dit après ? Notre Père.
Eh bien, justement, on y reviendra. Ça sera l'introduction donc de la cinquième émission de cette grande série. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir pris le temps de faire ce détour au milieu de votre agenda.
Souvent dans la messe pendant toute cette année nouvelle.
Voilà, la messe au fil de ses rites, pour ceux qui voudraient aller plus loin, paru aux éditions CLD. Merci beaucoup, Monseigneur. Cette émission est réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.